Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi. Une émission préparée ce matin par Margot Le Ridon, mais aussi Bertie Bourdon, Mélanie Chalandon et Nicolas Sandé, réalisée par Benjamin Hu et mise en onde ce matin par Jordan Fuentes. Dernier temps de notre série consacrée au grand dossier de la rentrée pour la diplomatie française. Après avoir évoqué lundi l'amitié franco-libanaise, mardi notre présence militaire au Sahel, et hier le rôle de l'Europe en Biélorussie, tournons-nous aujourd'hui vers la Méditerranée orientale, où l'escalade entre la Turquie et la Grèce, appuyée par Paris, a laissé craindre le pire cet été. Méditerranée orientale, quand Macron joue les gendarmes face à Erdogan, c'est notre sujet ce matin dans Culture Monde.
Turquie, Akdeniz'de de.
La Turquie prendra en mer Méditerranée, mer Égée et mer Morte ce qui lui revient de droit. De la même manière dont on ne se mêle pas des territoires, de la souveraineté et des intérêts des autres, nous ne ferons aucune concession sur ce qui nous appartient.
Nous disons clairement que la Grèce défendra sa souveraineté et ses droits souverains. Nous appelons la Turquie à quitter sans délai le plateau continental grec.
Nous avons, Allemagne comme France, la claire volonté, la claire solidarité avec Grèce et Chypre. Mais nous avons aussi la volonté d'assurer la stabilité de cette région.
Là, ça devient ennuyeux.
Voilà, on entendait à l'instant Recep Tayyip Erdogan, le président turc, qui parlait de la mer Morte, mais certainement de la mer Noire, c'était le lapsus. C'est un espace stratégique regorgeant d'hydrocarbures, trop étroit pour que le seul droit de la mer puisse en réguler l'usage, convoité par la Turquie, qui voit dans les gisements gaziers une opportunité tant économique que géopolitique. La Méditerranée orientale est farouchement surveillée par la Grèce, qui compte la mer Égée dans ses frontières maritimes. Cet été, le viol de la frontière en question par un navire turc a conduit la France à faire une démonstration de force pour le moins inhabituelle vis-à-vis d'un de ses alliés de l'OTAN en y envoyant expressément des navires de guerre. Alors qu'une désescalade, s'amorce timidement, notamment sous l'égide de l'Allemagne, de nombreuses tensions demeurent dans cette zone clé, non seulement d'un point de vue énergétique, mais également géopolitique au sens plus large. En effet, cette séquence s'inscrit dans le cadre d'un agenda mêlant rivalité franco-turque sur le terrain libyen, crise migratoire, accusation d'expansionnisme à l'égard d'Erdogan. Alors qu'est-ce que ces incidents nous disent de l'état des relations franco-turques, mais également turco-européennes? Quelles sont les ambitions de la France dans cet espace maritime méditerranéen? Quels sont les nouveaux enjeux aussi qui y sont rattachés, en particulier ceux liés à l'exploitation des ressources gazière en eau profonde, et faut-il craindre une escalade dans cet espace méditerranéen qui se militarise de plus en plus? Pour évoquer toutes ces questions, on a invité ce matin Bruno Tertrais. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes directeur adjoint de la Fondation pour la recherche stratégique, la FRS, et puis auteur de nombreux ouvrages. Pour citer les plus récents petits ouvrages parus après la crise du Covid, l'épreuve de faiblesse, les conséquences géopolitiques du coronavirus chez Gallimard, mais aussi le choc démographique chez Odile Jacob, c'était juste avant justement la crise du coronavirus. Avec nous également, Bélig Nabli, bonjour. Bélig Nabli, est-ce que vous nous entendez? Voilà, vous nous entendez, il y a un petit décalage. Merci infiniment d'être avec nous. Vous êtes maître de conférence à l'Université Paris-Est-Créteil, directeur du site d'analyse chronique.fr. Vous aviez écrit, vous, notamment en 2015, chez Armand Collin, la géopolitique de la Méditerranée, qui va être notre espace de réflexion ce matin. Alors, peut-être pour commencer, on va commencer avec vous, Bruno Tertrais. Une réaction un peu générale sur cette séquence de cet été. Je rappelais rapidement les faits tout à l'heure. On a des bateaux turcs qui ont été envoyés, escortés par des bâtiments de guerre turcs dans les eaux territoriales grecques. Paris décide alors d'envoyer à son tour deux bâtiments de la marine nationale, des avions, des hélicoptères. Du côté de la diplomatie française, on explique avoir, je cite, momentanément renforcé la présence militaire française dans la zone en coopération avec les partenaires européens. Enfin, quand même, on a envoyé des navires. Et puis du côté d'Ankara, on dénonce l'attitude du président Macron qu'on qualifie de caïd. Comment est-ce que vous avez ressenti cette séquence, Bruno Tertrais? Comment est-ce que vous comprenez ces réactions quand même assez radicales de part et d'autre? D'un côté, l'envoi de bâtiments de guerre, de l'autre, des commentaires quasi insultants, ou pour pas dire même insultants, Comment vous avez ressenti les choses, Bruno Tertrais?
Alors qu'on envoie, que la France envoie des navires de guerre en Méditerranée orientale, ça n'a absolument rien de surprenant ou de particulièrement provocateur. Il faut quand même rappeler qu'on est présent, la France est présente en Méditerranée orientale quasiment en permanence. On a un sous-marin nucléaire d'attaque, c'est-à-dire un sous-marin à propulsion nucléaire, qui écoute un peu ce qui se passe dans la région en Méditerranée orientale depuis des années à peu près en permanence. Donc c'est de toute façon une zone d'intérêt pour nous, c'est normal, ce sont les alliés européens, il y a le Liban, il y a Israël, il y a tout cela. Le fait qu'on ait envoyé des rafales...
Ça se fait en réaction.
Bien sûr.
Ce que je veux dire, c'est que ce n'est également, pas, puisque membre de l'OTAN.
Tout à fait. La Turquie. Ce que je veux dire, c'est que ça n'est pas extraordinaire qu'on ait une présence militaire temporairement renforcée en Méditerranée orientale. Moi, j'ai vu cela, pour répondre à votre question, comme une sorte de, comme la formation d'une sorte d'orage parfait, une sorte de tempête géopolitique qui, d'abord, s'appuie sur un substrat de contentieux entre la France et la Turquie qui ne date pas d'hier. On en reparlera, mais le dossier est assez lourd entre la France et la Turquie. Et puis, c'est vrai que la Méditerranée orientale est devenue, en quelques mois, une sorte de maelstrom géopolitique où se confondent tous les grands enjeux finalement d'aujourd'hui, les frontières, les hydrocarbures, les migrations, l'islam politique, tout cela vient se greffer sur un substrat qui était déjà assez lourd, sur un contentieux qui était déjà assez lourd entre la France et la Turquie. Alors pourquoi est-ce que la France, presque seule, en tout cas seule à agir militairement, aujourd'hui se montre particulièrement sur ces dossiers? Je crois que pour deux raisons essentielles. D'abord parce que pour la France, ce sont des enjeux, ces enjeux de frontières en mer sont extrêmement importants. Il faut d'abord montrer à l'Union européenne et aux citoyens de l'Union européenne qu'on sait protéger nos frontières également en mer, parce que les frontières de l'Europe, elles ne sont pas seulement sur terre, elles sont en mer. Et puis, je sais même que Paris réfléchit à juste titre à la manière dont cette crise est perçue par le reste du monde. Autrement dit, à l'heure où de grands acteurs, la Chine en premier lieu, dans son propre espace frontalier géopolitique, et essaye de grignoter des espaces maritimes de plus en plus importants, du point de vue de Paris, tout ce qui se fait en Méditerranée orientale, c'est regardé par d'autres grands acteurs, en particulier la Chine, mais aussi la Russie, qui est en mer Noire également.
Donc le message n'est pas seulement destiné à la Turquie, voilà. C'est ça que vous voulez dire.
Il n'est pas seulement destiné aux Européens et à la Turquie, ouais. Il est aussi destiné au reste du monde.
Et puis la
deuxième raison, beaucoup plus rapidement, c'est l'abstention américaine. On est dans des crises sur lesquelles, traditionnellement, il y a quand même une implication américaine beaucoup plus forte. Et là, il n'y a personne.
Alors, on va revenir sur un certain nombre de points que vous avez évoqués. On a un petit peu de temps, mais je voudrais vous donner la parole, Béling Nabli. Vous aussi, réaction sur cette séquence. Et puis, il va falloir que vous fassiez un petit point sur le différent territorial entre la Turquie et la Grèce. Au fond, qu'est-ce qui est à l'origine de tout cela? C'est un différent territorial maritime. Il va falloir essayer de le démêler un tout petit peu. Il se trouve que hier, on a appris que la Grèce allait repousser la limite de ses eaux territoriales en mer Ionienne. Il va y avoir un projet de loi, ça y est, qui est sur la table et il sera voté au Parlement grec dans les semaines qui viennent. Béling Nabli, réaction générale et puis ensuite un peu d'explication sur ce différent territorial. Béling Nabli.
Alors, d'abord, du point de vue général, effectivement, la France est une puissance méditerranéenne. Voilà, c'est une expression à laquelle on n'est pas forcément habitué. Mais en dépit de son statut post-Seconde Guerre mondiale, où la France est devenue une puissance moyenne, elle demeure malgré tout une grande puissance méditerranéenne, peut-être la première dans le bassin occidental, et une puissance également en Méditerranée orientale. Donc il y a, à travers les différents actes, les différents faits que vous avez rappelés, l'affirmation de ce statut de puissance régionale, à un moment où précisément on assiste à une réaffirmation et à une reconfiguration de ces puissances en Méditerranée, eu égard notamment au fait que du côté turc, le discours nationaliste se conjugue de plus en plus avec une méthode et une pratique expansionniste. Alors, on a l'exemple dans le cadre maritime, mais vous avez aussi, on tend à l'oublier un peu, mais quand même, la stratégie turque au nord de la Syrie, qui est quand même une transgression du droit international et une remise en cause précisément de la frontière comme élément fondamental des rapports internationaux. Donc la Turquie conjugue de plus en plus le discours nationaliste avec une pratique expansionniste, et face à cette donne-là, la France réagit d'abord et avant tout, plus que n'agit, elle réagit en tant que puissance pour, alors, pas forcément défendre ses intérêts premiers, puisque ce n'est pas l'espace maritime français qui est concerné, mais en soutenant explicitement la Grèce, s'affirme comme un allié privilégié, même si les différents protagonistes appartiennent à une même organisation, hein, l'OTAN, qui paradoxalement est fondée sur le principe de l'alliance et de la solidarité, y compris militaire. Donc il y a là aussi une configuration assez délicate pour cette organisation qui est confrontée à des interrogations quasi existentielles à cause du comportement turc depuis un certain nombre d'années.
Sur la question du différend maritime, peut-être préciser, Belyk Nebli, qu'il se joue là, en l'occurrence, autour de cette île Castellorizo, qui est située à 3 km de la Turquie et qui est à plus de 500 km de la Grèce continentale, mais pour lesquelles Athènes revendique la bande des 370 km au large de la côte insulaire, comme le prévoit la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Donc tout cela est logique du point de vue du droit de la mer.
Alors, de mon point de vue, c'est un peu plus compliqué.
Alors,
d'abord, peut-être rappeler en un mot le fait que tout cela est relativement nouveau. Je veux dire que le fait que la Méditerranée orientale puisse constituer un pôle de puissance énergétique, c'est relativement nouveau dans la mesure où ça remonte grosso modo à la découverte en 2009-2010 d'importants gisements offshore. Et c'est à partir de ces découvertes-là qu'a émergé finalement à la fois ce pôle énergétique, mais qui a du même coup fait émerger la problématique de la délimitation des frontières maritimes. Alors c'est là où cette question qui peut paraître relativement claire sur la base des principes du droit international de la mer devient un peu plus compliquée dans le cadre particulier de la Méditerranée, qui est une mer particulièrement étroite où précisément ces délimitations ne sont pas très clair, notamment parce que en Méditerranée orientale en particulier, les différents États concernés ne bénéficient pas de relations bilatérales permettant ou dont la qualité permet de négocier et d'expliciter et de fixer explicitement et définitivement ces frontières-là.
Alors, Belyk Nebli,
le cas gréco-turc est tout à fait significatif de ce point de vue.
On va faire tourner la parole, Bruno Tertrais l'a demandé, mais je vais vous la rendre évidemment, on va essayer d'équilibrer les temps de parole. Mais Bruno Tertrais, il y a effectivement, on l'entend, Belyk Nebli nous l'explique, en réalité, des différends, parce que il y a des zones économiques exclusives qui se chevauchent tout simplement. Et donc, tout cela est aussi un jeu par lequel on va essayer de négocier ces espaces-là. La négociation, est-ce que c'est pas finalement ce que cherche Erdogan, précisément, s'agissant de ces eaux territoriales?
Il ne semble pas être dans une posture visant la négociation. Peut-être que ça se terminera par une négociation. Pour le moment, on n'y est pas. En fait, dans cette affaire, il y a deux enjeux majeurs qui s'entrecroisent, mais qui sont quand même différents. L'enjeu des frontières, l'enjeu symbolique, l'enjeu national, voire nationaliste, et l'enjeu du gaz, des hydrocarbures. C'est quand même deux choses différentes. Castellorizo, par exemple, cette petite île qui est toute proche, île grecque, mais toute proche de la Turquie, lorsque la Turquie autorise l'envoi de navires d'exploration accompagnés par des bâtiments de guerre. À mon avis, c'est davantage pour l'enjeu frontalier, l'enjeu symbolique, l'enjeu national, que pour un accès au gaz. C'est quand même deux choses différentes. Hein. Alors, il se trouve effectivement que depuis 2009, Belyk Nebli l'a rappelé, cet enjeu des hydrocarbures a compliqué encore les choses. Mais je reviens aux frontières. Ce qui s'est passé, c'est que la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, qui est un instrument juridique horriblement complexe dès qu'on parle d'îles, des îles submergées en partie, etc., et qui autorise désormais aux États de demander l'extension des droits sur leur plateau continental, c'est arrivé pas en même temps, parce que c'est avant la découverte des hydrocarbures, mais tout ça, ce sont des enjeux qui se sont manifestés de manière parallèle. Donc, quand vous ajoutez le nationalisme, voire le nationalisme avec des fortes connotations religieuses d'Erdogan, ça fait quelque chose d'assez explosif. Mais j'insiste sur le fait qu'il faut quand même distinguer l'enjeu des frontières, qui n'est pas nouveau. On entend quand même la Turquie dire depuis des dizaines d'années, la mer Égée ne doit pas être un lac grec. Bon, il se trouve que la géographie et l'histoire ont quand même donné à la Grèce l'essentiel de la mer Égée. C'est comme ça. Mais la Turquie, et c'est là que ça devient intéressant, ne souhaite pas appliquer cette convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Donc déjà, c'est compliqué entre États qui reconnaissent, qui ont ratifié cette convention, ou qui, sans l'avoir ratifiée du moins, en acceptent les dispositions. C'est encore plus compliqué avec des États qui ont des relations comme la Grèce et la Turquie, et qui en plus, pour l'un d'entre eux, sont dirigés par des dirigeants, effectivement par des leaders expansionnistes, voire, disent certains, impérialistes. Donc voilà, donc on a ces deux enjeux, les frontières à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, la question de l'exploration et de l'accès aux ressources, aux nouvelles ressources gazières. Ces deux enjeux se confondent partiellement, mais sont quand même deux choses séparées.
Sur la question gazière, Malik Nabli, peut-être faut-il préciser aux éditeurs qu'il y a plusieurs projets d'exploitation gazière dans la région, et notamment celui qui s'appelle EastMed, qui est un projet de gazoduc qui regroupe la Grèce, Chypre et Israël. Par ailleurs, il y a d'autres pays qui ont rejoint ce groupe à travers la création d'une nouvelle organisation qui vise à devenir une sorte d'OPEP gazier de la Méditerranée. Il y a l'Italie et la Jordanie qui ont rejoint cette organisation. Et évidemment, Ankara est à la touche, et sur la touche, il voudrait bien lui aussi pouvoir exploiter cette manne extraordinaire. Question extrêmement naïve, Belik Nabli, pourquoi au fond Ankara n'est pas associé à tout cela, à tous ces projets gaziers? Pourquoi est-ce qu'on ne coopère pas tous ensemble, tous ces acteurs de la région, pour aller chercher cette manne gazière extraordinaire qui désormais est exploitable grâce aux technologies qui ont considérablement évolué et qui permettent aujourd'hui de faire de l'exploitation de ressources en eau profonde?
Bien, d'abord parce que territorialement, la Turquie est la moins légitime à exprimer des revendications quant à l'exploitation des découvertes des gisements de gaz concernés. Mais en même temps, votre question est intéressante en ce sens où elle pose vraiment l'enjeu de cette séquence ouverte depuis une dizaine d'années avec cette Méditerranée orientale devenue pôle énergétique mondial, à savoir est-ce que finalement cette nouvelle donne va constituer une source, une nouvelle source de tension internationale, ou au contraire une occasion, une opportunité historique de rapprochement. Parce que finalement, encore une fois, je rappelle que les différents acteurs étatiques concernés n'entretiennent pas forcément, loin s'en faut, de bonnes relations bilatérales. Est-ce que, de manière pragmatique et réaliste, l'intérêt individuel et collectif de ces États pourrait les amener à se rapprocher, à améliorer leurs relations diplomatiques afin précisément de trouver des accords, y compris sur des questions frontalières, y compris pour la répartition de l'exploitation des gisements concernés, ou est-ce qu'au contraire, cette situation-là va susciter des tensions d'autant plus fortes?
Vous croyez justement à l'hypothèse numéro 1, celle d'une coopération? Parce que en effet, si Ankara est bloquant, ça sera très compliqué d'exploiter cette manne qui est extraordinaire. Il faut quand même réaliser qu'on a là des ressources qui sont à peu près équivalentes, c'est ce que disent les spécialistes, de celles de la Norvège, c'est-à-dire colossales. Il y a là une manne extraordinaire à se partager.
Exactement. C'est en ce sens que la négociation n'est pas une option qui relève d'un quelconque idéalisme pacifiste, mais c'est une option réaliste parce qu'elle correspond, la négociation, à l'intérêt des différents États concernés. Après, il y a effectivement, la théorie réaliste ou l'approche réaliste de la géopolitique ne suffit pas à solutionner et à comprendre finalement, y compris les blocages. Comment, par exemple, rapprocher le Liban et Israël pour l'exploitation de gisements qui se situent pratiquement, dans des zones qui peuvent légitimement disputer. C'est une perspective le rapprochement entre le Liban et Israël, y compris pour l'exploitation de tels gisements, qui reste une perspective qui reste assez assez lointaine a priori, même si on assiste à un processus de normalisation de israélienne dans la région. Mais vous voyez bien là que ce qui est vraiment passionnant pour du point de vue géopolitique, c'est comment conjuguer finalement une approche réaliste qui devrait nous amener à voir ces États négocier pour trouver des solutions en vue d'exploiter les gisements, et de l'autre, finalement, un passé, une histoire, des données passionnelles qui relèvent y compris de l'idéologie, qu'elle soit nationaliste, religieuse ou autre, qui, au contraire, nourrissent plutôt les tensions. Et c'est entre ces deux
données... Bruno Tertrais, vous pensez que le chemin de la coopération, d'un accord futur, pourquoi pas, entre la Turquie et la Grèce, est envisageable ou on est dans la fiction ?
On est aujourd'hui dans la fiction. Je pense que le projet politique d'Erdogan aujourd'hui, c'est celui de la confrontation. Donc je ne dis pas que toute négociation sera impossible, et souvent face à ce type de leader tel qu'Erdogan, le fait d'être ferme, justement, c'est ce qui amène parfois à la négociation. Mais pour l'instant, je ne vois pas de perspective de coopération véritable entre les États concernés. Il faut préciser aussi que sur la question du gaz, alors on ne va pas tout ramener au gaz, parce qu'encore
une fois... Non, on va passer à autre chose après.
Non, mais j'insiste sur le fait que la question symbolique des frontières est au moins aussi importante, et peut-être plus. Sur la question du gaz, il y a bien deux questions différentes. Il y a celle de l'exploitation des ressources, pour lesquelles certains États se disputent la frontière, comme le Liban et Israël, pour lesquels certains États, tels que la Turquie, voudraient avoir effectivement, eux, leur propre part du gâteau, puisque la Turquie souhaite être moins dépendante de l'étranger, notamment de la Russie, pour ses approvisionnements en gaz. Et il y a une deuxième question, c'est celle du transit, celle des gazoducs. Alors, on parle beaucoup des gazoducs, on en a beaucoup parlé en Syrie, à mon avis, de manière totalement excessive. Donc, je ne vais pas tout ramener au gazoduc. Mais c'est vrai que la Turquie, et c'est pas, ça date pas d'Erdogan, veut être à la fois le maître de l'eau et le maître du gaz. Le maître de l'eau, traditionnellement, c'est une expression que certains stratèges turcs aiment bien. La Turquie, c'est le château d'eau du Moyen-Orient. Et elle aime bien cette posture, effectivement, qui lui permet, sur le papier, de contrôler, sur le papier, je dis bien, l'accès à la ressource en eau du Moyen-Orient, du Tigre et l'Euphrate, notamment. Et puis, il y a la question des gazoducs, qui vient, effectivement, s'ajouter à cela, puisque la Turquie voudrait être, si vous voulez, une sorte de carrefour qui contrôle l'accès au gaz de l'Europe. Hein. Donc, il y a un projet concurrent qui se fait avec la Russie, et qui vient directement impacter ce nouveau projet, EastMed, effectivement un pipeline, un gazoduc qui passerait à travers la Méditerranée pour que le gaz, notamment israélien, puisse directement accéder à l'Europe. Donc vous voyez, il y a vraiment une double concurrence, ou même triple concurrence, les frontières, l'accès à la ressource et le contrôle du transit.
Cette histoire d'un différend autour des hydrocarbures entre la Turquie et la Grèce, c'est en réalité une histoire relativement ancienne. On parlait tout à l'heure d'une dizaine d'années. On a trouvé une archive bien plus ancienne, où on se battait déjà autour des hydrocarbures. Là, c'était pour du pétrole. On est en mars 1987 et c'est déjà entre la Turquie et la Grèce.
À l'origine du conflit, ce navire turc, le Sismic 1. Il doit, à partir de demain, entamer des recherches pétrolières dans les eaux internationales de la mer Égée. Si Athènes tentait d'empêcher ces recherches, la Turquie considérerait cela comme une déclaration de guerre. L'armée turque dans la région est passée de l'état d'alerte à l'état d'urgence. Argument d'Ankara, la Turquie a autant de droits que la Grèce sur la mer Égée. À Athènes, on ne l'entend pas de cette oreille. Le premier ministre grec, au cours du Conseil des ministres d'aujourd'hui, Andreas Papandreou, a exclu l'hypothèse que le Sismic 1 puisse mener sa mission à terme et indiqué qu'il tenait à mettre l'OTAN et les États-Unis qui soutiennent la force militaire de la Turquie devant leurs responsabilités. Ce soir, les alliés de l'OTAN, le gouvernement américain, lancent des appels au calme aux deux pays, leur recommandant d'entamer des discussions et d'éviter à tout prix le recours à la force.
Voilà, donc archive de 1987, justement, qui introduit deux nouveaux acteurs sur lesquels je voudrais qu'on se penche, que sont les États-Unis et l'OTAN. Belignabi, on va commencer avec vous, et regardons un petit peu l'actualité des derniers mois. L'un des faits importants, c'est cet accord en octobre dernier, par lequel le Parlement grec a approuvé la présence militaire des États-Unis de façon permanente dans les eaux grecques. Est-ce que vous pouvez nous rappeler en quelques mots, Belignabi, ce que dit précisément cet accord ? Et puis, de façon plus générale, on va essayer de comprendre comprendre jusqu'où Washington est disposé aujourd'hui à soutenir la Grèce et, de façon plus générale encore, à jouer le rôle de gendarme dans cet espace méditerranéen. Belyk Nabli.
Alors, en deux mots, d'abord, le fait que cet accord est intéressant en ce sens où il peut paraître paradoxal, puisque d'un côté, il exprime la volonté des États-Unis de demeurer un acteur présent et puissant dans une région loin des frontières américaines, au moment où précisément l'hôte de la Maison-Blanche, président Trump, a fait de son credo enfin une forme d'isolationnisme paradoxal. Donc cet accord illustre parfaitement que derrière America First, il y a malgré tout la persistance d'une volonté de puissance américaine, y compris en Méditerranée. Ensuite, s'agissant de l'accord en tant que tel, sur le fond, il n'y a pas grand-chose de nouveau. Les États-Unis, finalement, ont toujours une relation privilégiée avec la Grèce en tant qu'allié protecteur. Cet accord vient malgré tout, et c'est son intérêt, formaliser, expliciter à un moment charnière cette relation privilégiée en Méditerranée orientale, afin également d'envoyer un message fort finalement à la Turquie qui affiche des velléités quasi territoriales par rapport à un conflit lancinant avec la Grèce. Alors même que, historiquement, il faut rappeler que les États-Unis avaient pour allié privilégié également la Turquie dans la région. Et là, on assiste à une forme de rééquilibrage dans ce jeu à trois, où les États-Unis se rapprochent et affichent ce rapprochement avec la Grèce pour signifier du même coup une mise à distance de plus en plus manifeste vis-à-vis de la Turquie d'Erdogan. Donc c'est historiquement et symboliquement que cet accord est important, je trouve.
Bruno Tertrais.
Quant au mois d'octobre dernier, Emmanuel Macron fait sa fameuse sortie publique sur la mort cérébrale de l'OTAN. C'est un peu de cela qu'il parle. Ce qu'il dit, c'est que quand on a une alliance dans laquelle deux membres, la Turquie surtout et les États-Unis, d'une autre manière, n'ont pas la même politique que d'autres en Syrie, puisque c'était de la Syrie dont il était question, il y a un souci. Alors, il se trouve que l'OTAN, c'est une organisation qui est d'abord et avant tout destinée à la défense collective de ses membres contre une menace extérieure. Donc l'OTAN n'a absolument rien à faire, théoriquement, dans cette histoire, puisque l'OTAN n'est absolument pas faite, n'a pas de mission, n'a pas de mandat pour régler un différend entre deux de ses membres. Donc qu'est-ce qui se passe dans un cas comme celui-là? C'est déjà arrivé par le passé, y compris, vous l'avez rappelé, en raison des très nombreuses crises gréco-turques qui ont émaillé l'histoire de l'Alliance. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Ce sont les États-Unis qui arrivent et qui disent « Bon voilà, je vais essayer d'apaiser le différend entre les deux pays membres, en l'espèce Ankara et Athènes ». Mais ce qu'on pouvait faire plus facilement au temps de la guerre froide, où il y avait quand même une menace commune militaire permanente, ressentie comme telle par la quasi-totalité des alliés, c'est plus difficile à faire aujourd'hui quand la menace est moins prégnante. Quand vous avez un dirigeant Donald Trump qui est beaucoup moins enclin à prendre ce type d'initiative, et quand vous avez enfin un leader comme Erdogan qui est quand même pas exactement le type de leader auquel on avait l'alliance était habituée pendant la guerre froide. Donc ça devient très difficile. J'ajoute les difficultés bilatérales entre l'Amérique et la Turquie aujourd'hui, puisque il y a un certain nombre de contentieux. Je citerai simplement le fait que la Turquie a décidé d'acheter des intercepteurs anti-aériens russes, s'est rapproché de la Russie sur de nombreux dossiers. Donc la position de Washington est très ambivalente. Il y a d'autres contentieux d'ailleurs entre les deux parties. Et Washington ne sait pas trop quoi faire finalement. Et donc, c'est pour ça qu'on en revient à la France. Parce que l'OTAN ne peut rien, l'Amérique ne veut pas. Qui est-ce qui reste? L'Union européenne et la France. L'Union européenne parce que là, pour le coup, défendre les frontières de l'Union européenne, c'est légitime. La Turquie n'est pas membre de l'Union européenne. Les défendre sur le plan militaire, on verra, mais sur le plan juridique et politique, certainement. Et par ailleurs, tout simplement, la France agit parce que son grand partenaire n'est pas là. Donc c'est un peu... C'est, bien sûr, nous avons des intérêts, ça a été rappelé, en Méditerranée orientale depuis toujours. Mais là, on a un intérêt particulier et une raison particulière d'être en première ligne sur ce dossier.
elle agit, mais elle manque considérablement de soutien, y compris de ses partenaires européens. Je vais peut-être rappeler des faits qui sont intéressants à regarder. Il va falloir essayer de comprendre ce manque de soutien, d'où il vient. Juin dernier, on a une frégate française qui est visée lors d'une mission de l'OTAN dans la zone. Elle se retrouve visée par les radars d'une frégate turque qui escortait là un cargo soupçonné de transporter des armes vers la Libye. C'est un différend qui a même pris forme au sein de l'OTAN, puisqu'il y a une enquête qui a été diligentée, une enquête qui n'a absolument pas abouti à la dénonciation de l'agissement du navire turc. Et le soutien à l'égard de la France a été extrêmement modeste, puisque seuls pays ont affiché très clairement leur soutien à la France, ce qui est assez peu. Cette affaire elle a d'ailleurs provoqué la colère de Paris, qui s'est momentanément retiré de cette opération de sécurité qui s'appelle Sea Guardian, qui est une grande opération en Méditerranée qui a été lancée en 2016, qui vise à sécuriser un peu cette zone-là. Donc là, on a vu, une fois encore, à ce moment-là, ce manque de soutien. Belignabli, d'où vient ce manque de soutien? Il y a bien des idées. Le bateau allait du côté de la Libye. Peut-être la Libye est l'un des points qui permet d'expliquer ce manque de soutien, justement.
Incontestablement, je trouve qu'en France, on n'a pas assez tiré les conséquences de l'intervention de 2012, alors même qu'à l'étranger, un regard critique assez acéré sur la nature et surtout les conséquences de l'intervention militaire française, mais pas uniquement, franco-britannique, disons, de 2012, fait que finalement elle est restée dans la mémoire diplomatique internationale et en particulier du côté turc. C'est une intervention qui ne passe pas et pour différentes raisons sur lesquelles on aura peut-être l'occasion de revenir. Mais effectivement, on reste malgré tout aujourd'hui dans la continuité de ce qui s'est passé en 2012, à savoir donc l'intervention franco-britannique pour officiellement venir en aide à la population de Benghazi et avec pour conséquence de fait et politique la fin du régime de Kadhafi. Sauf que ça a suscité un chaos non seulement libyen mais régional jusqu'à la zone sahélienne qui aujourd'hui justifie précisément un retour en force de la France en Méditerranée du point de vue discursif, puisque il est très intéressant, il faut le pointer, de souligner que depuis, disons, la fin du quinquennat Hollande, il y a l'affirmation côté français de considérer la Méditerranée comme une zone géostratégique centrale, en ce sens où c'est une zone tampon, une transition vers des zones de sécurité qui concernent les intérêts de la France. Et on pense précisément aux enjeux sécuritaires, mais aussi migratoires, points de départ essentiels se situent dans la zone sahélienne. Or, précisément, la déstabilisation de cette zone-là remonte au chaos libyen. Et cette séquence n'est toujours pas terminée. On est loin d'une stabilisation de la situation politique en Libye. Ce, en dépit, non pas de l'ingérence, mais en tout cas de l'interventionnisme, cette fois-ci, non pas militaire, mais politique de la France, pour une partie ou en faveur de l'un des protagonistes libyens. Et c'est cet interventionnisme politique qui ne passe pas côté turc, sachant que les Turcs, là, pour le coup, interviennent ou sont impliqués non seulement politiquement, mais aussi militairement.
Oui, et la France aussi, par ailleurs, soutenant d'ailleurs le maréchal Haftar contre le gouvernement de Sarraj, qui lui est quand même le fruit d'un processus organisé par les Nations Unies, par lequel il est arrivé au pouvoir en Libye. Bruno Tertre, est-ce que vous pensez que la France paye encore aujourd'hui le coût politique de cette intervention en Libye qui a fait tomber le régime de Kadhafi?
Non, je ne crois pas que ce soit la raison principale. Pour répondre à votre question directement, je ne pense pas que ce soit la raison essentielle pour laquelle la France a du mal à avoir un soutien plus franc, plus ferme, plus explicite de ses alliés de l'Union européenne et de l'OTAN.
Alors, on ne pensait pas que Merkel, quand même, a toujours ça en tête,
non.
Et ça explique en
non,
partie.
Non, je ne pense pas que c'est la raison. Non, je pense que pour Angela Merkel, par exemple, l'enjeu migratoire qui est lié à la Russie, qui est lié à la Libye, etc., est beaucoup plus important que la mémoire de l'intervention de 2011, sur laquelle on pourrait revenir, mais qui, à mon avis, est quand même un petit peu un autre sujet. Non, je crois qu'il y a trois raisons. Alors, première raison, la Libye quand même, parce qu'effectivement, tout le monde ne soutient pas la France, qui a d'abord essayé de faire des tentatives de médiation tout à fait bienvenues, d'ailleurs, entre les deux gouvernements, puisqu'il y a deux gouvernements, un à l'Est, un à l'Ouest, de la Libye. Et puis, elle a semblé prendre parti, effectivement, pour le maréchal Haftar, à l'Est, et au détriment du gouvernement d'Al-Sarraj, qui n'est pas forcément, c'est pas parce qu'il est reconnu par l'ONU qu'il est moins corrompu, moins djihadiste, moins tout ce que vous voulez, attention. Mais c'est vrai que ça pose quand même des soucis, notamment quand on voit que l'Italie, qui est aussi quand même un pays qui accorde, pour des raisons historiques et géographiques, beaucoup d'importance à la Libye, l'Italie est de l'autre côté, entre guillemets. Donc ça, c'est un premier type de raison. Deuxième type de raison...
La France est du côté de la Russie, effectivement. Des Émirats Arabes Unis...
Oui, je vais y venir justement, parce que la deuxième raison, c'est que beaucoup d'alliés de la France, européens et de l'OTAN, d'abord ne veulent pas s'aliéner la Turquie qu'ils voient comme un partenaire précieux au sein de l'OTAN, même si c'est avec Erdogan, et qu'ils ne veulent pas non plus basculer, entre guillemets, du côté russe. Autrement dit, pour les gens d'Europe de l'Est, par exemple, pour les pays d'Europe de l'Est, l'idée de dire on va pas soutenir la Turquie, mais on va être partenaire avec la Russie, c'est difficile à entendre. Je crois qu'il y a une troisième raison. Très franchement, je crois qu'autant je pense que la politique française de fermeté dans cette région vis-à-vis de la Turquie est une bonne chose sur le fond. Je crois que le langage, j'allais presque dire pas seulement la rhétorique, mais presque le langage corporel d'Emmanuel Macron sur ce sujet n'a pas aidé à construire un consensus européen. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce que je veux dire, c'est que lorsqu'on parle de comportement criminel, je cite Emmanuel Macron, de la Turquie, on emploie des mots qui, justifiés ou non, suscitent des réactions de prudence, voire de méfiance de la part des alliés européens, au premier rang desquels l'Allemagne. Donc on ne peut pas s'attendre, à mon sens, quand on utilise une telle rhétorique, à ce que tous les pays les voisins européens de la France et les alliés de l'OTAN se rangent comme un seul homme derrière la France. Après, ça peut aussi avoir quelques bénéfices de voir un pays comme l'Allemagne, qui a justement la présidence de l'Union européenne, être un tout petit peu en retrait pour, le cas échéant, construire des passerelles, essayer de faire des médiations. Vous voyez, l'Allemagne maintient un canal de discussion avec la Turquie pour lequel la France quasiment n'a plus de véritablement, bien sûr la France parle avec la Turquie comme avec tous les pays, tous ses voisins, tous ses alliés, mais c'est plus facile aujourd'hui pour l'Allemagne de parler à tout le monde, surtout avec cette présidence de l'Union européenne, que ça ne l'est pour la France. Donc je crois que la rhétorique, la posture d'Emmanuel Macron n'a peut-être pas aidé, encore une fois, même si c'est justifié sur le fond, à construire ce consensus européen.
Peut-être erreur diplomatique d'Emmanuel Macron.
Erreur de posture n'est pas forcément erreur diplomatique, puisque la diplomatie française s'active, elle est très active, elle essaye de construire un consensus sur le fond, et c'est ce qui compte, mais à mon avis, erreur de tactique, plus que de stratégie.
Belignabli.
Oui, alors, lorsque personnellement je vise l'intervention de 2011 et non pas de 2012, c'est la réaction européenne ou internationale n'est pas de nature morale, c'est pas une condamnation morale qui pèse sur la France aujourd'hui, c'est plutôt l'idée suivant laquelle la France a une responsabilité à assumer aujourd'hui vis-à-vis de la situation régionale et que cette responsabilité se traduit par le fait que son engagement, eh bien, c'est un engagement qui se justifie eu égard à cette intervention, mais qu'elle doit assumer quasi pleinement. Et cet isolement de la France, y compris militairement, est lié précisément à sa responsabilité dans l'intervention de 2011. En outre, cet isolement est intéressant parce que finalement, il fait écho également à l'échec de l'Union pour la Méditerranée. Rappelez-vous l'initiative du président Sarkozy en 2007-2008 qui consistait précisément à créer une nouvelle entité, une sorte d'organisation réunissant les pays méditerranéens dans la perspective d'un rapprochement de ces pays sur le plan politique, diplomatique, etc. Finalement, cette initiative, qui était plutôt louable, a échoué pour une raison fondamentale. C'est que les partenaires européens ont considéré, là aussi, que la France avait finalement pris une initiative de manière trop unilatérale, sans concertation préalable, alors même que de manière pragmatique, la réussite d'un tel projet supposait le soutien de partenaires européens dans le cadre de l'Union européenne, notamment à cause de la donnée financière. C'est-à-dire que pour financer un tel projet, manifestement, il fallait un budget européen. Ce budget européen supposait donc, d'un point de vue diplomatique, que le projet soit conçu en concertation avec les alliés européens de la France. Ce qui n'a pas été fait, est-ce que l'Allemagne a fait payer cette erreur d'appréciation politique et diplomatique par le fait que elle a imposé que l'Union pour la Méditerranée inclut finalement non seulement tous les pays du pourtour méditerranéen, mais également les pays européens membres de l'Union européenne, ce qui a dilué complètement la nature du projet et de l'organisation qui aujourd'hui ne constitue qu'une coquille vide, alors même que l'ambition de départ était tout à fait légitime.
On comprend votre position, Bélic Nabli. Pour vous, cette erreur originelle est encore payée par Paris et explique très largement ce manque de soutien. On va poursuivre ces réflexions et rester du côté de la Turquie. On a parlé de ses frontières maritimes qui sont des facteurs de tension avec Athènes. Sur le plan culturel, cette fois, c'est la réislamisation par Erdogan d'églises byzantines jusqu'à leur transformer en musées qui sont aussi motif de tension. En effet, après le très controversé retour des prières musulmanes au sein de la basilique Sainte-Sophie cet été, le président turc a signé la semaine dernière un décret visant à réislamiser l'église de Saint-Sauveur-Inchora. Bonjour Joëlle Dallègre.
Bonjour.
Merci infiniment d'être avec nous ce matin. Vous êtes maîtresse de conférence à l'INELCO, spécialiste de la Grèce contemporaine et des relations gréco-turques. Alors je le disais, après la basilique Sainte-Sophie, il y a un deuxième édifice donc qui vient d'être reconverti en lieu de culte à Istanbul. C'est l'église Saint-Sauveur-Inchora, qui est une magnifique église byzantine convertie en mosquée après la chute de Constantinople et devenue musée en 1948 par décision du régime kémaliste. Et alors, on va parler de la dimension politique, mais d'abord, il y a beaucoup d'inquiétudes du côté des conservateurs parce que on a peur, en particulier, que les superbes fresques murales que l'UNESCO a participé à restaurer ces dernières années ne soient menacées.
Logiquement, l'Église a eu moins de destruction que celle de Sainte-Sophie en fait au fil des ans, et elle est entièrement recouverte de mosaïques ou de fresques. Donc Erdogan, à propos de Sainte-Sophie, a voulu rassurer tout le monde en disant qu'il mettrait des rideaux pour cacher, n'est-ce pas, les choses qu'on ne saurait voir pendant les cérémonies islamiques et qu'on enlèverait les rideaux pour les touristes. Mais là, on voit assez mal comment il pourrait recouvrir la totalité d'une église de rideaux. Donc, de ce point de vue-là, effectivement, et puis c'est vraiment dommage dans la mesure où l'UNESCO a effectivement beaucoup payé, et ça a duré très longtemps pour arriver à restaurer la totalité, en particulier les fresques, parce que quand les musulmans recouvrent tout ça avec de la chaux, les mosaïques tiennent le coup, mais les fresques ont beaucoup de mal. Donc c'est vrai que sur un plan alors strictement artistique, ça risque effectivement d'être d'un grand dommage. En plus, si vous vous mettez à faire des trous partout pour pouvoir accrocher les fameux rideaux.
Joëlle Dallègre, pourquoi Erdogan fait-il ça? Est-ce que c'est un message à l'adresse de son opinion et en particulier la frange la plus conservatrice? Est-ce qu'il a fait ça de son propre chef? Est-ce qu'il a subi des pressions de la part d'associations et autres confréries musulmanes? Comment ça s'est fait au fond? Qui a décidé de cela réellement?
Enfin, ça peut se voir à plusieurs degrés. Bon, c'est vrai que c'est quelque chose qui était demandé par les groupes les plus actifs islamistes depuis une quinzaine d'années. Donc, et il leur disait toujours qu'il ferait ça au bon moment. Bon, et tout d'un coup, il vient de nous expliquer il y a quelques mois que le bon moment était arrivé. Alors, pourquoi il est arrivé? Je pense qu'il est arrivé effectivement parce que sur un plan intérieur, ça va lui ramener des électeurs et qu'il en a beaucoup besoin ces dernières années. Ça va lui permettre d'aller pêcher un peu du côté droit. En même temps, lui-même est quand même un diplômé des écoles religieuses turques. Je veux dire, c'est un homme qui est vraiment et profondément musulman. Donc il estime qu'il n'y a pas de problème, c'est quelque chose de très bien et qu'il est dans son droit. Et en plus, le moment est peut-être aussi bien arrivé parce que dans le cadre de toute son escalade de provocations et de mots durs avec la Grèce depuis quelques mois, il sait très bien que c'est quelque chose qui est vraiment ressenti comme un coup très fort en Grèce.
Pour quelle raison ? Là, il faut peut-être faire un tout petit peu d'histoire. Pourquoi est-ce que c'est aussi un message à la Grèce ?
La cathédrale Sainte-Sophie est quand même là depuis le 6e siècle après Jésus-Christ, donc bien avant même la naissance du prophète Mahomet, et ça a été la plus grande église du monde jusqu'à Saint-Pierre de Rome, donc quand même pas mal de temps, un grand modèle d'architecture pour tout Proche-Orient, et puis c'était l'église où siégeait le patriarcat tant que la ville n'a pas été prise par les Turcs, et c'était aussi l'église où avaient lieu toutes les cérémonies que faisaient les souverains byzantins. Donc c'est vrai que pour les Grecs, c'est un symbole à la fois religieux et un symbole national, si je puis dire. Donc Saint-Sauveur-in-Cora, c'est ressenti durement parce qu'ils se disent voilà une deuxième église et combien d'autres il va faire la même chose. Mais ça n'a pas la valeur aussi forte sur le plan des symboles que Sainte-Sophie.
Comment Athènes a réagi justement à ces conversions ?
En déplorant, en critiquant, en invoquant l'UNESCO, la législation internationale, Kemal qui avait fait des musées de tous ces bâtiments les plus renommés, en faisant appel à l'UNESCO qui a dit que bien sûr c'était tout à fait déplorable, à l'Union européenne qui a dit à peu près la même chose, mais que voulez-vous qu'elle fasse d'autre, la Grèce ?
Voilà, c'est ça. On n'a aucun levier de toute façon. C'est un sujet dans l'opinion turque où finalement au-delà effectivement de la frange la plus radicale, on ne s'en soucie pas. Il y a des voix, des partis politiques en Turquie qui se sont élevés contre cette réislamisation, cette islamisation de ces anciennes églises byzantines.
Il y a des Turcs qui effectivement ont critiqué, mais il faut bien reconnaître que vu l'état de la liberté d'opinion en Turquie, c'est-à-dire pas grand-chose, et c'est surtout des Turcs de l'extérieur qui ont eu le courage de le dire, et il y a un certain nombre de Turcs, même en Turquie, qui ont dit que c'était pas vraiment quelque chose à faire. Mais c'est vrai que sur le plan, je veux dire, s'il prend ça sur un plan strictement électoral, il y a beaucoup plus de masse paysanne fidèle à l'islam en Anatolie qu'il y a de Turcs kémalistes et éduqués à l'ouest du pays. Et donc, moi, je pense pas que personne ne lui ait imposé la décision. Je crois qu'il est en fait, effectivement, de lui-même, persuadé que par rapport à sa propre vision de l'islam, c'est très bien. Comme en plus, il a tendance ces temps-ci à se prendre un petit peu pour le dernier ou le successeur de tous les sultans. C'est conforme, je veux dire, il a célébré au mois de mai l'anniversaire de la prise de Constantinople. Ensuite, donc, il signe le décret pour Sainte-Sophie. Là-dessus, il est allé faire sa première cérémonie musulmane dans Sainte-Sophie, c'est le 24 juillet. Pour nous, ça dit rien, mais pour les Grecs et pour les Turcs, c'est le jour de la signature du traité de Lausanne qui signe en fait la victoire des Turcs sur les Grecs à la fin de leur dernière guerre entre eux, et qui est quelque chose dont les Turcs et les Grecs parlent sans arrêt.
Eh oui, Erdogan sait évidemment jouer avec...
C'est pas une date qu'il a prise au hasard.
Ouais, il sait jouer avec les symboles. Bruno Tertrais voulait réagir, on a encore... quelques instants.
Oui, pour dire d'abord, pour abonder sur ce qui vient d'être dit, anniversaire du traité de Lausanne, anniversaire du traité de Sèvres, qui est la grande humiliation, même si ce traité a été morné, perçu comme la grande humiliation des Ottomans. On parlait tout à l'heure de la Libye, on a peut-être pas mentionné que une des raisons pour lesquelles la Turquie est en Libye, c'est une sorte de revanche contre l'histoire des années 1910 où les Ottomans étaient humiliés précisément dans cette région par les pays, par les pays européens. J'ajouterais à ce qui a été dit sur le calcul de politique intérieure d'Erdogan qu'aujourd'hui, il y a en Turquie un gouvernement de coalition avec un parti ultranationaliste pour lequel évidemment, des décisions qui ont été prises comme celle de la reconsécration de Sainte-Sophie sont évidemment très importantes. Mais sur la question de l'islam, on a parlé tout à l'heure des communautés turques à l'étranger. Là où on a vraiment, je crois, une démarche d'impérialisme politique ou religieux de la part de l'AKP, de la part du parti au pouvoir et d'Erdogan, c'est qu'on a véritablement une volonté de contrôle des communautés turques dans les pays européens, y compris en France. Et ça fait partie des raisons pour lesquelles Emmanuel Macron est extrêmement agacé, le mot est faible, contre Erdogan. On a des offensives, des réseaux sociaux liés, de comptes liés directement à l'AKP, qui n'ont plus grand-chose à envier avec ce que font les groupes liés au pouvoir russe. On est dans le même type de démarche. On a véritablement... Ça, c'est quelque chose qui ne se voit pas beaucoup, mais il faut être bien conscient de ce nouvel impérialisme politico-religieux de la part d'Erdogan et de l'AKP, y compris en France, parce que c'est la promotion d'une version de l'islam politique jugée non conforme avec la République, quand on veut essayer de comprendre... l'agacement, et encore une fois, le mot est faible, d'Emmanuel Macron.
Merci beaucoup, en tout cas, infiniment à vous, Joël Dallègre, de nous avoir éclairé sur cette réislamisation des églises-musées en Turquie, l'autre facteur de tension avec la Grèce. Merci infiniment.
Alem güzel de biz mi çekiniz? Hayat deniz verdi de biz mi yüzmedik? Kimse silmedi gözümüzden yaş, gören olmadı bağrımızda taş. Dere vuralım elde akılsız baş. Yaş, yaş gözümüzde yaş. Kimse silmedi gözümüzden yaş.
Voilà, c'est sûr que cette superbe chanteuse turque dont vous pouvez retrouver la voix, le lien sur la page de Culture Monde qu'on se quitte. Un grand merci à nos invités. Bruno Tertrais qui est avec nous ici en plateau. Mossi Bedignabli qui était également avec nous par duplex. On va retrouver également vos ouvrages l'un et l'autre sur la page de Culture Monde. Voilà, on clôt cette première série consacrée à la rentrée diplomatique française qu'on peut aussi retrouver sur la page de France Culture, comme un autre protagoniste qui arrive tout de suite qu'on peut aussi retrouver sur une page de France Culture, c'est Brice Couturier, son tour du monde des idées.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Vous allez nous parler des États-Unis et de la Chine. Les relations entre les États-Unis et la Chine ne cessent de se tendre. Évidemment, la conjoncture y contribue. Donald Trump est en campagne électorale. Jusqu'où cette tension peut-elle s'aggraver?
Une nouvelle guerre froide a commencé. Empêcher qu'elle dégénère en une guerre chaude, c'est dorénavant le sujet. Voici le commentaire qu'inspire un des experts des relations sino-américaines les plus connus, David Chambo, les toutes dernières décisions prises par Washington visant des intérêts chinois. Après avoir menacé de fermeture les deux applications chinoises les plus populaires aux États-Unis, WeChat et TikTok, le gouvernement américain vient d'annoncer, c'était hier, une série de mesures frappant l'une des plus importantes sociétés chinoises d'État, China Communications Construction Co. ou C4, spécialisée dans la construction en temps record de grosses infrastructures. C4 emploie 124 000 personnes et elle devrait être l'un des acteurs majeurs des nouvelles routes de la soie reliant l'Asie à l'Europe. Alors ce qui lui est reproché, avoir participé à l'édification des îles artificielles que Pékin a construites en mer de Chine du Sud. À travers cette poussière d'îlots, la Chine entend en effet contrôler militairement le trafic maritime entre l'océan Indien et l'océan Pacifique, c'est-à-dire un tiers du commerce maritime mondial, au détriment des droits territoriaux des États voisins, et en particulier du Vietnam, des Philippines et de Brunei. En 2015, afin d'apaiser leurs craintes, Xi Jinping s'était engagé à ne pas militariser ces petites îles. Eh bien, il n'a pas tenu sa parole. Sur certaines d'entre elles, la Chine a construit des pistes d'atterrissage pour ses avions de combat. Elle y a déployé des systèmes de défense anti-aérien et des missiles anti-navires. De leur côté, les Américains se posent en garant de la circulation maritime et tentent d'apparaître comme une alternative crédible aux intimidations exercées par la Chine sur ses voisins. Ces initiatives chinoises, il faut le savoir, viennent de rapprocher l'Inde des États-Unis, de l'Australie et du Japon. Le groupe Quadrilateral Security Dialogue, le fameux Quad, a repris de la vigueur, comme le relève dans un article récent Brahma Chelani.
De leur côté, Brice, deux journalistes du Wall Street Journal, spécialistes des relations sino-américaines, viennent de faire paraître un livre sur la dégradation des relations entre la Chine et les États-Unis.
Oui, c'est vraiment le sujet du jour. Oui, c'est Bob Davis et Lingling Wei. Ils viennent de publier ensemble Superpower Showdown, épreuve de force de superpuissance, sous-titre « Comment la bataille entre Trump et Xi menace d'une nouvelle guerre froide ». Alors le propos du livre pour le résumer, l'audace de Xi Jinping contraste avec la prudence de ses prédécesseurs à la tête du parti État chinois. À ses voisins asiatiques, il entend imposer sa suprématie. Il viole les engagements chinois envers Hong Kong. Il persécute la minorité musulmane des Ouïghours. Il ne cesse de menacer d'une invasion militaire la libre et démocratique République chinoise de Taïwan. L'Occident en face perd patience, écrivent les co-auteurs, face au manque de réciprocité de la Chine dans les joint ventures, les subventions publiques aux entreprises privées, les vols de propriété intellectuelle. Mais de son côté, Trump a multiplié les maladresses et les erreurs d'appréciation. Il a négligé les canaux de communication avec Pékin imaginés par ses prédécesseurs, notamment le Strategic Economic Dialogue créé par George W. Bush. Les Chinois ont longtemps ignoré qui était réellement en charge du dossier sino-américain au sein de l'administration Trump, tant celle-ci est chaotique. Alors vous me direz, la conjoncture est dangereuse, elle pousse les deux parties à la surenchère. En pleine campagne électorale, Trump veut apparaître comme un défenseur acharné et sans compromis des intérêts américains. Et de son côté, Xi désire distraire l'attention du monde des graves dysfonctionnements initiaux de la Chine dans la gestion de l'épidémie en cours. Je me permets d'ailleurs de renvoyer les auditeurs à ce propos au petit livre numérique que j'ai publié récemment aux éditions de l'Observatoire qui s'appelle « Après l'épidémie, un moment chinois ». Autopub. Hein. Mentionnons également un papier que vient de mettre en ligne l'ancien ministre vert allemand des Affaires étrangères, Joschka Fischer, intitulé « La fin de l'opportunisme occidental ». Pourquoi est-ce aujourd'hui que les choses s'enveniment entre l'Occident et la Chine, se demande Fischer. Après tout, cela fait des décennies que l'Occident tolère l'espionnage industriel endémique, le non-respect de la propriété intellectuelle par la Chine, ainsi que ses atteintes multiples aux droits de l'homme. Mais voilà, les démocraties fermaient les yeux parce qu'elles y trouvaient leur intérêt. L'accès à un marché de plus d'un milliard de consommateurs et une main-d'œuvre peu onéreuse. Alors qu'est-ce qui a changé d'après Fischer? C'est simplement que les Occidentaux ont enfin réalisé qu'ils avaient participé eux-mêmes à l'essor d'un pays qui sera bientôt, que Trump le veuille ou pas, la première puissance du monde. Ils devront donc, les Occidentaux, se débarrasser de leurs illusions sur la Chine et trouver, je cite Fischer, une voie moyenne entre la souplesse servile et la confrontation. Eh bien, c'est une voie étroite, selon l'ancien ministre allemand lui-même.
Merci beaucoup, Brice Couturier, pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site de France Culture. Je rappelle pour les auditeurs que demain, on ne vous retrouve pas, mais on retrouve la chronique sur le site, chronique numérique. On vous retrouve donc à l'antenne lundi. Très bon week-end, Brice. Dans un très court instant, on retrouve Olivia Gesbert et la Grande Table.